Chapitre 13. Madame Favoral parlait par expérience. Elle avait appris à ses dépens que le sifflet de son mari, bien plus sûrement que le cri des goélands, présageait la tempête. Et elle avait, ce soir-là, plus de raison qu'à l'ordinaire de craindre. Dérogeant à toutes ses habitudes, M. Favoral n'était pas rentré dîner et avait envoyé un des garçons de bureau du Crédit Mutuel dire qu'on ne l'attendit pas. Bientôt, son passe-partout grinça dans la serrure, la porte s'ouvrit, il entra et, apercevant son fils, « Eh bien, je suis content de vous trouver ici » s'écria-t-il avec un ricanement qui était chez lui la dernière expression de la colère. Madame Favoral frémit, encore sous l'impression de la scène qui venait d'avoir lieu, le cœur gros encore et les yeux pleins de larmes, Maxence ne répondit pas. « C'est une gageure, sans doute, » reprit le père, « et vous tenez à savoir jusqu'où peut aller ma patience ?»«
Je ne vous comprends pas, » balbutia le jeune homme.
« L'argent que vous preniez je ne sais où vous fait défaut, sans doute, ou ne vous suffit plus, et vous vous en allez, contractant des dettes de tous côtés, chez des tailleurs, chez des chemisiers, chez des bijoutiers. C'est bien simple, on ne gagne rien, mais on veut être vêtu à la dernière mode, porter chaîne d'or au gousset, et alors on fait des dupes. »«
Je n'ai jamais fait de dupes, mon père. » »«
Bah ! Comment donc appelez-vous tous ces fournisseurs qui sont venus aujourd'hui même me présenter leurs factures ? Car ils ont osé venir à l'administration, à mon bureau. Ils s'étaient donné rendez-vous, pensant ainsi m'intimider plus sûrement. Je leur ai répondu que vous êtes majeur et que vos affaires ne me regardent pas. Entendant cela, ils sont devenus insolents et ils se sont mis à parler si haut que leur voix retentissait jusque dans les pièces voisines. Monsieur de Thaler, mon directeur, passait en ce moment dans le corridor. Entendant le bruit d'une discussion, il a pensé que j'étais aux prises avec quelqu'un de nos actionnaires et il est entré comme c'est son droit. Alors, j'ai bien été forcé de tout avouer. » Il s'animait au son de ses paroles comme un cheval au tintement de ses grelots. Et de plus en plus hors de soi, « C'est bien là, continuait-il, ce que voulaient vos créanciers. Ils pensaient que j'aurais peur du tapage et que je financerais. C'est un chantage comme un autre et très à la mode maintenant. On ouvre un compte à un mauvais drôle et quand le compte est raisonnablement gros, on va le porter à la famille en disant « De l'argent ou je fais du scandale. Pensez-vous que ce soit à vous, qui êtes sans le sou, qu'on ait fait crédit ? C'est sur ma poche que l'on tirait, sur ma poche à moi que l'on croit riche. » On vous écoulait à des prix exorbitants tout ce qu'on voulait, et c'était sur moi qu'on comptait pour solder des pantalons de 90 francs, des chemises de 40 francs et des montres de 600 francs. » Contre son ordinaire, Maxence n'essaya pas de nier. « Je paierai tout ce que je dois, » dit-il. « Vous ? Je vous en donne ma parole. Et avec quoi, s'il vous plaît ?
Avec mes appointements.
Vous en avez donc ?» Maxence rougit. « J'ai ce que je gagne chez mon patron, » répondit-il. « Quel patron ?»«
L'architecte chez lequel m'a placé M. Chapelain. »
D'un geste menaçant, M. Favoral l'arrêta. « Épargnez-moi vos mensonges, » prononça-t-il. « Je suis mieux informé que vous ne le supposez. Je sais que depuis plus d'un mois, votre patron, excédé de votre paresse, vous a chassé honteusement. » Honteusement était de trop. Le fait est que Maxence, retournant à son travail un beau matin, après une absence de 5 jours, avait trouvé un remplaçant. « Je chercherai une autre place, » dit-il. C'est avec un mouvement de rage que M. Favoral haussait les épaules. « Et en attendant, il faudra que je paie, » s'écria-t-il. « Savez-vous de quoi me menacent vos créanciers ? De m'intenter un procès. Ils le perdraient, ils ne l'ignorent pas, mais ils espèrent que je reculerai devant l'esclandre. » Car ce n'est pas tout. Ils parlent de déposer une plainte au parquet. Ils prétendent que vous les avez audacieusement escroqués, que les objets que vous leur achetiez n'étaient nullement pour votre usage, que vous vous empressiez de les vendre à vil prix afin de vous faire de l'argent comptant. Le bijoutier à la preuve assure-t-il qu'en sortant de sa boutique, vous êtes allé tout droit au Mont-de-Piété engager une montre et une chaîne qu'il venait de vous livrer. C'est une affaire de police correctionnelle. « Ils ont dit tout cela devant mon directeur, devant Monsieur de Thaler. J'ai dû recourir à mon garçon du bureau pour les mettre dehors. Mais quand ils ont été partis, Monsieur de Thaler m'a donné à entendre qu'il souhaite vivement que j'arrange tout.
Et il a raison. Ma considération ne résisterait pas à deux scènes pareilles. Quelle confiance accorder à un caissier dont le fils est un osseur et un faiseur de dupes? Comment laisser la clé d'une caisse qui renferme des millions à un homme dont le fils aurait été traîné sur les bancs de la police correctionnelle? C'est-à-dire que je suis à votre merci. C'est-à-dire que mon honneur, ma situation et ma fortune dépendent de vous. Tant qu'il vous plaira de faire des dettes, vous en ferez, et je serai condamné à les payer. » Rassemblant son courage, « Vous avez été parfois bien dur pour moi, mon père, » commença Maxence. « Et cependant, je ne veux pas essayer de justifier ma conduite. Je vous jure que désormais, vous n'avez rien à craindre de moi. » Monsieur Favoral ricanait. « Je ne crains rien, » prononça-t-il. « Je connais des moyens positifs de me mettre à l'abri de vos folies. Je les emploierai. »« Je vous affirme, mon père, que ma résolution est bien prise. » « Oh, dispensez-moi de vous repentir périodique !» Mademoiselle Gilberte s'avança. « Je me porte garant, dit-elle, des résolutions de Maxence. » Son père ne la laissa pas poursuivre. « Assez, interrompit-il durement. Mêle-toi de tes affaires, Gilberte. J'ai à te parler, à toi aussi. »«
À moi, mon père ?»«
Oui. » Il fit trois ou quatre tours de long en large dans le salon, comme pour laisser à son irritation le temps de se calmer, puis, venant se planter debout et les bras croisés devant sa fille, « Tu as 18 ans, reprit-il, c'est-à-dire qu'il est temps de songer à ton établissement. Il se présente pour toi un parti. » Elle tressaillit et reculant, plus rouge qu'une pivoine.
« Un parti ? » répéta-t-elle d'un ton de surprise immense.
« Oui, et qui me convient. »
« Mais je ne veux pas me marier, mon père. »
Toutes les jeunes filles disent cela, et dès qu'il se présente un prétendant, elles sont enchantées. Le mien est un garçon de 26 ans, très bien de sa personne, aimable, spirituel, qui a eu de grands succès dans le monde.
Mon père, je vous affirme que je ne veux pas quitter ma mère.
Naturellement. C'est un homme intelligent et un travailleur obstiné, promis de l'avis de tous à une immense fortune. Bien qu'il soit riche déjà, car il est un des principaux intéressés d'une charge d'agent de change, il fait avec l'ardeur d'un pauvre diable le métier de remisier. On me dirait qu'il gagne 100 000 écus par an, que je n'en serais pas surpris. Sa femme aura voiture, loge à l'opéra, des diamants et des toilettes, autant que Madame de Thaler.
Et que m'importe de telles choses?
C'est entendu, je te le présenterai samedi. Mais Mademoiselle Gilberte n'était pas de ces jeunes filles qui, par timidité, par faiblesse, se laissent engager contre leur volonté et engager si avant que plus tard elles ne peuvent plus reculer. Une discussion devant avoir lieu, elle préférait la subir immédiatement.
« Une présentation est absolument inutile, mon père, » déclara-t-elle résolument.
« Parce que,
je vous l'ai dit, je ne veux pas me marier.
Et si je veux, moi ?»
« Je suis prête à vous obéir en tout, sauf en cela. »«
En cela comme en tout le reste !» interrompit le caissier du Crédit Mutuel d'une voix tonnante. Et, enveloppant sa femme et ses enfants d'un regard gros de défiances et de menaces, « En cela comme en tout, répéta-t-il, parce que je suis le maître et que je saurai le montrer. Oui, je vous le montrerai, car je suis las de voir ma famille liguée contre mon autorité. » Et il sortit en fermant la porte si violemment que les cloisons en tremblèrent.
« Tu as tort de tenir ainsi tête à ton père, ma fille !» murmura la faible Madame Favoral.
Le fait est que la pauvre femme ne comprenait pas que sa fille pût repousser l'unique moyen qu'elle eut de rompre avec la plus triste des existences.
« Laisse-toi toujours présenter ce jeune homme, » dit-elle. « Il se peut qu'il te plaise. »«
Je suis sûre qu'il ne me plaira pas. » Elle dit cela d'un tel accent que Madame Favoral en fut soudainement éclairée.
« Mon Dieu » murmura-t-elle. « Gilberte, ma fille chérie, aurais-tu donc un secret que ta mère ne connaît pas ?»